vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Lionel Lorlière vous présente La Voix des Notaires. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Maître Gapé, notaire à Nogent. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Maître, j'ai un ami qui a l'intention de faire un don à une association et il me parle de legs également. Est-ce que vous pourriez à ce moment-là me dire quels sont les conseils qu'il faudrait lui donner vu de votre étude?
Bien, il y a effectivement beaucoup de choses à dire à ce sujet.
Bon, alors.
Nous sommes confrontés à des testaments, des dons et legs au profit d'associations, et c'est ce sujet-là que je voudrais évoquer aujourd'hui, à savoir que, encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son notaire avant de rédiger son testament. Pourquoi ? Parce que je ne rentrerai pas aujourd'hui dans l'explication de savoir comment faut faire un testament, de savoir quelles sont les formes de testament, etc. Ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une autre émission. Je partirai plutôt du cas où une personne veut faire un don ou un legs au profit d'un organisme, d'une association, d'une œuvre caritative, d'une association cultuelle, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, je dirais d'abord, le premier objectif, c'est que quand vous désignez un bénéficiaire pour un legs qui soit universel, c'est-à-dire que si vous léguez la totalité de vos patrimoines ou particulier parce que vous lui léguez tel ou tel bien, eh bien, il faut que cet organisme soit clairement défini. À défaut de définition claire, eh bien, vos volontés risquent de ne pas être respectées.
Oui.
D'abord, il faut léguer au profit d'un organisme reconnu. Je vais vous donner plusieurs exemples que j'ai moi-même personnellement vécu. D'abord, si vous dites « je lègue mes biens à la maison de retraite », ça ne veut rien dire. La maison de retraite n'a pas d'entité. Hein. Si vous dites, par exemple, je lègue tel bien ou mes biens à l'église de tel village, vous léguez à qui ? Vous léguez à l'église qui appartient à la commune, donc à la commune, ou vous léguez au diocèse ?
Oui, ça c'est...
Donc, il faut que ça soit clairement défini. Donc, en fait, il faut bien prendre vos renseignements et savoir à qui vous pouvez léguer. Sachez que tous les notaires disposent d'un petit fascicule, des dons et legs, qui fait que vous avez la liste de tous les organismes qui, pouvant exister et aptes à recevoir des dons et legs. Et également, je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure, exonérer éventuellement des droits de succession.
Ah oui, en plus, oui. Et alors, ça doit être un livret important si vous avez tout, non ?
Oui, enfin, c'est maniable, je vous rassure.
Ah bon, d'accord. Non, parce qu'on en voit tellement de demandes de legs et de nombreuses associations. Non, ça tient sur
un
petit fascicule.
Il y a des associations ou des organismes qui sont habilités à recevoir des dons et legs et qui sont exonérés de droits de succession en vertu d'une déclaration d'utilité publique.
Voilà, oui, c'est ça. Oui,
donc ça il n'y en a pas, il n'y en a pas des milliers. Enfin, il y en a quand même pas mal, mais enfin, ça reste quand même assez...
Enfin, ça peut être sur une liste imprimée sans problème.
Voilà. Donc, il faut bien définir à qui vous voulez léguer vos biens. Parce que si jamais il y a un problème, eh ben, on est obligé de faire reconnaître la réalité du legs, et donc on est obligé de passer devant les tribunaux pour déterminer qui sera bénéficiaire de la libéralité.
Oui.
Donc, ce qui n'est déjà pas évident. Hein. Et puis d'autre part, je suppose que quand vous faites un don ou un legs, on va plutôt parler des legs, en fait, vous faites un testament au profit d'une association ou d'un organisme, vous avez évidemment pour objectif que cette association ou cet organisme ne paye pas 60% de droits de succession et soit lui-même habilité à recevoir des dons et legs.
Oui, absolument.
Voilà. Donc toute association n'est pas habilitée à recevoir des dons et legs exonérés de droits de succession.
D'accord.
Hein. Ça,
c'est important. Oui.
Ah, bien sûr. Oui. Et il faut, donc, encore une fois, qu'elle soit clairement déterminée.
Est-ce qu'il y a une différence entre legs et dons? Quel est le...
Un legs est un don, mais c'est-à-dire un don, si vous voulez, est fait plutôt de votre vivant. Hein, vous faites un don. Hein.
Oui, c'est ça.
Un legs, c'est une disposition testamentaire.
Ah oui, d'accord, très bien. Oui.
Voilà, c'est ça.
Oui, non, mais c'est... Voilà, c'est une
bonne... Donc, de bien déterminer à qui vous voulez léguer vos biens. Alors, j'embrayerai sur plusieurs aspects particuliers. Le premier, c'est que si vous voulez léguer vos biens à une association cultuelle ou à une congrégation, donc il faut bien évidemment que ça soit d'une part déterminé et d'autre part que cette association ou cette congrégation soit elle-même bien reconnue. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous voulez léguer vos biens à un monastère, par exemple, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la fondation des monastères, et dans ce cas-là, il faut dire, eh bien, je lègue à la fondation des monastères pour telle congrégation, monastère.
Oui, il faut aller au général pour aller au particulier.
Voilà, et qui est, lui, cette fondation qui se chargera de reverser le legs à la congrégation ou bien déterminée.
Oui, et d'exonérer des...
Voilà, parce
des
que la fondation taxes, des monastères est-elle exonérée. Hein. En revanche, si vous avez une toute petite congrégation qui n'est pas reconnue, elle n'est pas forcément exonérée des droits. Ensuite, au niveau des congrégations, si par exemple vous dites « je lègue à telle congrégation », les congrégations ne sont pas par elles-mêmes habilitées à recevoir des legs, et donc il doit y avoir une autorisation administrative, donc qui, elle, peut prendre quelque temps. Mais en principe, ça se passe bien, simplement, c'est vrai que les congrégations n'ont pas la capacité juridique, depuis la loi de 1905.
Très bien. Bon, nous allons avoir une petite pause musicale et nous reprenons la suite de cette étude. Vous aviez abordé en début, avant notre petite pause, ce côté legs et dons, et je pense que vous avez encore un certain nombre de choses à nous dire pour nous conseiller.
Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, eh bien, il faut bien déterminer la fondation ou l'organisme que vous voulez faire bénéficier. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'une fondation ? Une fondation, c'est un regroupement, si vous voulez, qui peut être un regroupement d'associations, un regroupement de congrégations, qui, lui, va recevoir un legs pour le redistribuer à un de ses adhérents.
Voilà, oui, c'est clair. Il faut aller à l'association et non pas à l'adhérent lui-même.
Voilà, alors chaque association, chaque organisme habilité à recevoir des dons et legs dispose d'un service juridique et évidemment... il est conseillé de prendre contact avec eux, hein, et ils vous indiqueront également exactement tout ce qui peut être fait. Par exemple, vous dites, vous voudriez faire bénéficier, par exemple, telle association religieuse ou telle congrégation. Eh bien, il faut prendre contact, soit avec la fondation des monastères, soit avec d'autres organismes. Il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Alors, c'est quelquefois une démarche qui est un peu compliquée, parce que, par définition, le testament ne prendra effet que le jour où vous serez plus là.
Hein. Oui.
On peut changer d'avis. Donc, c'est pas parce que vous avez fait un testament au profit de tel ou tel organisme ou telle association que vous êtes après tenu parce que vous avez pris contact avec eux. Hein, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider, et après, vous faites ce que vous voulez.
Voilà.
Oui. Donc voilà. Donc je crois que il y a vraiment eu trop de testaments qui ont été mal rédigés, que c'est vraiment très très important d'en parler à son notaire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur vos volontés.
Voilà.
Donc votre notaire saura vous guider dans vos choix. Alors c'est pas à nous de choisir. Hein. Nous on n'est pas là pour dire qu'il faut vous donner à telle association.
Oui, mais
on est là pour dire au client comment il faut qu'il fasse. Parce qu'il souhaite faire telle chose.
Voilà, pour que ses dernières volontés, en fait, soient exécutées et ne soient pas...
Et surtout exécutables.
Exécutables, absolument.
Hein, donc, vraiment, c'est très important. Si vous voulez, moi j'ai vraiment eu plusieurs fois des cas où on se trouvait devant des testaments qui devenaient inapplicables parce que, justement, la clause était mal rédigée.
Voilà, oui, je comprends tout à fait.
Voilà. Et puis alors, c'est vrai que pour faire son testament, comment faut-il faire ? C'est vrai que bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est quand même important de préciser ça pour terminer. À savoir que soit vous prenez une feuille de papier, vous l'écrivez vous-même, et il n'y a que trois conditions pour que ça soit valable, à savoir que ça soit 1, écrit de votre main, 2, daté, 3, signé. Alors, il est conseillé de le faire devant le notaire.
Oui, c'est quand même plus, voilà. Plus véridique que de... Il ne peut pas être contesté, au moins.
Et puis après, vous avez une autre sorte de testament. Je parle des deux principales sortes de testaments. Le testament authentique. Alors ça, c'est plus vous qui l'écrivez. C'est le notaire qui le rédige en présence de deux témoins.
Deux témoins.
Et oui, en présence de deux témoins ou d'un deuxième notaire, mais en général, bon, on prend deux témoins. Ouais. Les témoins attestent que ce testament exprime bien la volonté de la personne qui a testé.
Oui.
Voilà. Et donc, il est formellement déconseillé de faire son testament tout seul sans en parler à son notaire.
Oui, surtout laisser dans.
Et pourtant, ça reste dans le principe valable.
Oui, ça. Et au point de vue expérience. Est-ce que quels sont en général les gens passent quand même devant leur notaire avant de faire leur testament?
Oui. D'une façon générale, ou alors quelquefois ils viennent me l'apporter en me disant voilà j'ai fait mon testament, est-ce que ça convient?
Voilà,
alors,
oui, mais c'est une bonne chose.
Si ça convient pas, ben on fait refaire, puis c'est
voilà,
tout.
Voilà, exactement.
Hein,
oui.
Mais si ça convient pas au niveau technique, on est bien d'accord, ouais. hein, puisque surtout on n'a pas à s'immiscer, on n'a pas à faire le choix à la place du client.
Voilà, autrement dit, sur un testament qu'on vous apporte. Vous conseillez pour qu'il soit valable, mais c'est pas vous qui le rédigez sous la dictée de.
Si c'est un testament authentique, si. Si c'est un testament authentique, c'est moi qui le rédige
avec deux témoins sous
la dictée du testateur.
Voilà.
Voilà. Et puis donc le testament authentique, comme le testament holographe, eh bien après. Comme le testament est secret par définition, eh bien, qu'est-ce qui prouve qu'on va le retrouver une fois que vous serez plus là ?
Oui, exactement.
Eh bien, c'est pour ça, et tout le monde le sait, il y a un fichier central des testaments, et à chaque fois que nous ouvrons une succession, nous interrogeons ce fichier, qui est basé du côté d'Aix-en-Provence, eh bien, à savoir que ce fichier nous dit, eh bien, oui, effectivement, il y a ou il n'y a pas un testament chez tel notaire à telle date, et si j'ouvre une succession et que j'ai un testament chez un confrère, eh bien, on va interroger ce confrère pour qu'il nous ressorte ce testament.
Voilà.
Hein, donc par définition, le testament, même s'il est conservé chez vous, il reste valable, mais vous avez bien compris qu'il y a premièrement un problème de perte.
Hein, oui.
S'il est trouvé par quelqu'un qui n'a pas intérêt, ben, on ne va pas le retrouver. Hein. Et puis deuxièmement, c'est quand même préférable dans la mesure où s'il est remis au notaire, il a quand même beaucoup plus de force, à savoir qu'il y a beaucoup moins de contestation, on est plus sûr, entre guillemets, que c'est bien la personne qui l'a, c'est bien le testateur qui l'a écrit.
Merci Maître de toutes ces précisions. Je crois que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs parce que c'est des choses très concrètes et qui se passent un peu tous les jours. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, Maître Gappé était dans nos studios et la réalisation technique est de Claude Cazard.